Atelier, sommes-nous devenus esclaves de nos téléphones portables avec Philippe Vion-Durie, spécialiste des nouvelles technologies.
Bonjour à tous, donc merci d'être là cet après-midi. Donc je suis effectivement en compagnie de Philippe Vion-Durie et première chose, bien sûr, on va vous demander d'éteindre vos téléphones portables ou de les mettre à côté puisque c'est le sujet du jour. Ça me paraît naturel de faire un petit effort et d'arrêter pour 50 minutes, 55 minutes votre conversation numérique. Puisqu'en effet, Philippe, donc, je vais vous le présenter rapidement, est un jeune journaliste qui n'est pas sorti de l'IJBA, mais qui est sorti du CFJ après des études de droit et qui a fait 2 ans à Rue 89, qui est un site que vous connaissez peut-être, ou moins qu'il y a quelques années, puisque c'est un site qui est un peu en perte de vitesse, qui est au sein maintenant du site du Nouvel Observateur, enfin de l'Obs, et qui ensuite a pigé à droite et à gauche. Enfin, tu vas nous raconter un peu tes expériences, et qui surtout a collaboré à un magazine qui s'appelle Social Terre, que je vous montre, qui est un magazine à la fois sur le net et sur papier, qui est un magazine qui s'occupe de tout ce qui est économie solidaire et de tout ce qui est nouvelle économie avec, en lien avec l'écologie, avec les nouvelles technologies aussi. Et donc, ça l'a amené à réfléchir pas mal sur justement nos outils numériques et notamment le téléphone. Et il en a tiré un essai publié il y a un an aux éditions FIP qui s'appelle « La nouvelle servitude volontaire ». Donc, Philippe va nous expliquer de quelle servitude il s'agit. Et donc, le sous-titre, c'est « Enquête sur le projet politique de la Silicon Valley ». Donc, et bien sûr, cette servitude volontaire passe par les outils que nous connaissons tous, c'est-à-dire l'ordinateur, le téléphone, la tablette, etc. Donc, première question, évidemment, c'est comment tu en es venu à avoir cette réflexion au travers peut-être de tes premières expériences de journaliste, d'internaute.
Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle technologie il y a 4-5 ans maintenant, quand j'étais à Rue 89, où j'étais journaliste techno. Et moi, je suis de la même génération que la plupart d'entre vous, parce que je vois que c'est très jeune. Donc j'utilise beaucoup mon portable, beaucoup trop. Je passe énormément de temps dessus. Et puis avec mes recherches, je me rends compte quand même qu'il y a un peu un problème dans le rapport qu'on a avec nos téléphones portables, mais avec l'ordinateur, avec beaucoup d'autres choses aussi. Et en fait, j'arrive sur ces travaux quand je suis encore à Rue 89, en fait, donc c'est même avant Social Terre. En fait, je découvre l'existence de technologies qu'on appelle les algorithmes. Enfin, je fais ça de façon un peu superficielle, mais c'est donc des algorithmes qui sont un peu partout aujourd'hui dans les outils. Et ce qu'on appelle même les algorithmes prédictifs, c'est-à-dire tous les petits programmes qu'il y a dans les applications et sur les sites Internet et dans certains outils qu'on utilise, qui tentent de prédire les comportements des gens.
Alors, excuse-moi, je t'interromps tout de suite. Ouais. Est-ce que tu peux, parce que je ne suis pas sûr que tous nos amis ici présents... qui sont, je crois, pour la plupart en première, c'est ça ? Vous êtes en première. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un algorithme ? Oui, on vous l'a expliqué ? Ou est-ce que tu peux le rappeler ?
Bon, pour faire simple, on parle toujours aujourd'hui de collecte de données. Donc, surveillance, collecte de données, on produit des données, on les donne aux entreprises. En fait, les données n'ont pas beaucoup de valeur par elles-mêmes. Ce qui est intéressant pour les grands acteurs comme Facebook, Google et d'autres, c'est de traiter ces données. Et on les traite comment ? Avec des algorithmes. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ces algorithmes ? Ces acteurs, ils essayent en fait de comprendre qui vous êtes et d'anticiper vos comportements, vos désirs, vos choix. Donc, par exemple, exemple très simple, les publicités ciblées, c'est typiquement des algorithmes qui utilisent vos données et selon des modèles qui ont été créés avant par d'autres algorithmes, c'est un peu compliqué, on essaie de voir quelle publicité va vous concerner, va vous plaire pour vous acheter le produit. Exemple encore plus commun pour vous tous, le mur Facebook. Donc tout le monde a Facebook, je suppose, ici ou presque. Il y a un mur avec un fil d'actualité. Le fil d'actualité, ce n'est pas du tout en fait, ce qui se passe sur votre réseau, parce que vous avez peut-être 300, 400 amis, je ne sais pas. En fait, vous ne voyez qu'une toute petite partie, à peine plus de 10% de ce que font vos amis. Ce que vous voyez, en fait, c'est ce que l'algorithme de Google, ou les algorithmes de Facebook, pardon, veulent bien vous montrer. Et comment est-ce qu'ils font ça ? Ils se disent, ce qui vous intéresse, c'est vraiment les actualités de vos amis proches, de ceux qui vous concernent, et des sites internet auxquels vous êtes abonné sur Facebook, etc. Et donc, des algorithmes, en permanence, construisent votre mur selon ce qu'ils estiment être vos goûts, vos préférences, vos désirs. Donc ça, c'est un exemple très classique, très simple de traitement des données. Mais on peut en avoir partout ailleurs. On peut en avoir Google quand vous faites une recherche. La recherche, si deux personnes font la même recherche avec les mêmes mots-clés, vous n'aurez pas les mêmes résultats, puisque les algorithmes de Google essayent de prédire votre profil, vos intérêts, votre historique passé, pour vous donner le résultat qui vous correspond. Et par exemple, si vous êtes bordelais, vous tapez Girondins, vous aurez certainement les Girondins de Bordeaux, l'équipe de foot. Si vous êtes parisien, vous aurez peut-être plus probablement l'histoire des Girondins de la commune, etc. Donc c'est un exemple typique de, par exemple, je sais pas, enfin, y a mille exemples comme ça, mais vous voyez là, parce que Google sait que vous êtes à Bordeaux, sait que vous aimez un peu le foot, paf, tapez Girondins, vous avez le foot.
Les Girondins de la Révolution française.
Je dis quoi ?
De la commune, mais bon.
De la commune, bon, j'ai un peu anticipé. Donc voilà, donc ça c'est des exemples très simples d'algorithmes, et ça m'a beaucoup intéressé, pourquoi ? Parce qu'en fait, bon, à l'époque on n'en parlait pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que si les acteurs, les grands acteurs aujourd'hui des technologies comme Facebook, Google, Tinder, peu importe, prenez celui que vous voulez, arrivent à savoir, à anticiper vos comportements, vos désirs, à vous comprendre mieux que vous-même, entre guillemets, ils acquièrent une grande influence sur vous. Imaginons qu'on soit en négociation à deux, que j'ai, par exemple j'essaie de négocier avec mon collègue ici présent, et que je sais exactement quel profil il a, ce qu'il pense, ce qu'il attend, et je peux anticiper sur ses réactions. Moi, j'ai intérêt à ce qu'il se comporte de cette manière, par exemple, qu'il me donne de l'argent. Eh bien, effectivement, je vais dire les choses qui vont faire qu'il va me donner l'argent. Ça s'appelle de la manipulation ou de l'influence. Eh bien, c'est exactement ce que recherchent ces acteurs, c'est-à-dire que vous ayez les comportements qui les arrangent, eux. Et donc, par exemple, Facebook, ce qui l'arrange, ce n'est pas tant que vous ayez une super expérience utilisateur sur Facebook, c'est aussi qu'ils vous comprennent intimement pour qu'ensuite, quand ils vous mettent des publicités ciblées, eh bien, ces publicités, vous les achetiez, et que donc, vous achetiez les produits qui sont proposés dans les publicités, et que donc ça justifie leur modèle économique auprès de leurs clients, qui sont les annonceurs. Ce n'est pas vous les clients de Facebook, c'est les annonceurs. Et donc s'ils arrivent à vous comprendre mieux que vous-même, à vous influencer en mettant les bonnes publicités en face de vous, eh bien là, ils deviennent riches, puisque les annonceurs savent qu'il y a un grand potentiel du côté de Facebook, et donc Facebook gagne de l'argent. Donc voilà, donc il y a une asymétrie entre le pouvoir qu'ont ces acteurs et vous, votre pouvoir, qui est qu'en fait, vous n'avez pas forcément même conscience des données qui sont utilisées, vous n'avez pas conscience d'à quel moment un algorithme a une influence sur vos choix ou sur ce que vous voyez. Et ça, pour moi, c'était le début de mon travail, et qui après va bien au-delà que de Facebook et de Google, qui va sur tous les acteurs, hein, dans l'assurance, dans la politique, comment mener une campagne aujourd'hui. Enfin, il y a mille acteurs dont on pourrait parler aujourd'hui.
Oui, alors juste pour compléter, Philippe vient de dire que les véritables clients de Facebook, ce sont les annonceurs, ce sont les entreprises qui font de la publicité sur le réseau. Et donc on peut compléter et savoir qui nous sommes, nous, utilisateurs de Facebook. Et il y a une phrase très connue déjà depuis 20 ans, mais que j'aime bien rappeler, c'est-à-dire que lorsque c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, en fait. C'est vous le véritable produit de Facebook que lui vend à ses annonceurs. Vous comprenez ? C'est cette circulation qui est évidemment qui peut être dangereuse. C'est ce que tu...
Généralement, quand vous avez un service qui est gratuit, c'est forcément que vous n'êtes pas vraiment le client, en fait. Vous êtes un moyen pour l'acteur de vendre son service à d'autres gens. Par exemple, il y a une analogie très simple, hein, mais la vache dans l'étable, ce n'est pas le client du fermier. Le client du fermier, c'est celui qui va acheter la vache à la fin en petits morceaux dans son assiette. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, vous, tout ce qu'attend Facebook de vous, c'est que vous passiez le plus de temps possible. Et donc là, du coup, ça nous ramène sur après l'addiction, le temps passé sur les applications. Mais l'intérêt de Facebook, c'est que vous passiez le plus de temps possible, que vous soyez très content d'être là, parce que lui, son client, c'est pas vous, c'est un annonceur qui veut faire de l'argent en vous vendant des produits. Donc, à chaque fois que c'est gratuit, méfiez-vous. Sachez qu'il y a toujours un prix, mais que le prix, ce n'est pas vous qui le payez directement, mais vous le payez d'une autre manière.
Et alors, au-delà de l'exemple Facebook, cette nouvelle servitude volontaire, est-ce qu'on peut y échapper ? Parce que là, si nous allons sur ces réseaux, si nous allons sur Twitter, Instagram, Facebook, ou si nous utilisons Google ou les moteurs de recherche les plus connus, c'est parce que tout le monde y est déjà. Il y a une sorte de... C'est assez paradoxal parce qu'à la fois on y va parce que tout le monde y est, et en même temps, le Google sait justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, repérer où nous habitons, quels sont nos goûts, et en fait, lui particularise. Donc il y a un paradoxe, c'est que nous y allons parce que tout le monde y est, mais Google, lui, particularise notre présence et cherche notre personnalité. Alors comment faire finalement pour échapper à cette servitude volontaire ?
Je risque de dire qu'on anticipe un peu sur le débat. Déjà, il faut dire le problème de la servitude. Non, mais j'aimerais bien ajouter à bord quelque chose d'autre. C'est qu'en fait, on peut prendre le problème d'une autre manière. c'est qu'aujourd'hui, les acteurs du numérique, les applications que vous utilisez, elles se livrent à une guerre de l'attention. C'est-à-dire que la vraie ressource pour eux, c'est l'attention que vous y consacrez. Votre temps dans une journée, il est limité. Vous avez, je ne sais pas, 4-5 heures à octroyer au réseau par jour, aux vidéos, réseaux, musique, etc. Et tous ces acteurs, ils ont tout intérêt, selon leur modèle économique, il y a différents modèles économiques, mais peu importe, ils ont intérêt à ce que vous y passiez le plus de temps. Facebook aimerait que vous passiez 10 heures par jour sur Facebook. YouTube, pareil. Google, pareil. Bon, du coup, la vraie ressource aujourd'hui, c'est votre attention. Et donc, comment vont faire les acteurs pour avoir votre attention ? C'est-à-dire votre temps passé, en fait. L'attention, c'est le temps passé. Eh bien, forcément, ils vont faire déjà le meilleur service possible. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on y va ? Ça répond à une partie de la question. C'est évidemment parce que les services sont hyper efficaces. Google, c'est une machine de guerre. Facebook, ça a été un réseau hyper, hyper ingénieux au début. Ça va, tout le monde y est maintenant. YouTube marche très bien. Enfin, on pourrait prendre à chaque fois. Ces modèles, quand même, reposent sur une qualité de service qui est extraordinaire, bien sûr. Donc, ils vont essayer de se démarquer les uns des autres par leur qualité de service. Mais derrière ça, on arrive sur une autre chose qui est beaucoup plus problématique. C'est que pour avoir votre attention, eh bien justement, ils vont essayer de la capter sans que vous le sachiez. Et là, on revient sur la question des algorithmes prédictifs. Mais par exemple, je vous donne un exemple. Sur Facebook, vous avez remarqué peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas trop jeune, mais vous avez remarqué sûrement qu'on est passé de vidéos qui étaient juste à cliquer à des vidéos qui s'auto-lancent. Maintenant, quand on a le fil, sauf si on désactive dans les paramètres un peu cachés, on peut désactiver ça, mais normalement, les vidéos s'auto-lancent. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, selon leurs études, quand la vidéo se lance toute seule, eh bien, vous la regardez beaucoup plus que s'il fallait cliquer pour la lancer. Donc ça capte votre attention. Et ce mécanisme-là, c'est un mécanisme cognitif, c'est juste que vu que l'image se met à bouger, on porte attention dessus et donc on passe du temps. Donc on passe plus de temps sur Facebook, on est plus immergé dans Facebook, et donc eux, potentiellement, ont plus d'interactions auxquelles ils peuvent monétiser, vous vendre des choses, etc. Ça, c'est un mécanisme qu'on peut appeler de manipulation ou d'influence, un mécanisme cognitif. Et ça, il y en a plein. C'est-à-dire, par exemple, quand YouTube vous suggère une vidéo à regarder ensuite, alors certes, ça joue dans la qualité de service, vous avez regardé une vidéo intéressante, une autre vous est suggérée qui est à peu près selon vos goûts, à peu près selon la vidéo que vous venez de regarder, c'est sympa. Le problème, c'est que c'est aussi un moyen de vous conserver dans la plateforme et de faire des tunnels vidéo de petits chats mignons et musique et autres, parce que, en fait, le fait qu'il y ait une vidéo suggérée et qu'elle s'auto-lance elle aussi hein, automatiquement dans votre petite fenêtre, fait que ça capture votre attention. Et aujourd'hui, c'est une vraie guerre et les acteurs sont prêts à tout pour manipuler les gens pour qu'ils passent le plus de temps. Et là, on n'est pas du tout dans un truc complotiste. Hein. J'ai documenté dans l'ouvrage plein d'expériences qui ont été menées. Je vais en citer une pour qu'on se rende compte quand même du problème. Facebook, je reste sur Facebook, hein, mais parce qu'ils sont vraiment faciles à attaquer, mais il y a plein d'autres acteurs dont on pourrait parler. Facebook, en 2014, ils ont mené une expérience sociale, donc on appelle ça de l'ingénierie sociale maintenant, une expérience sociale qui consistait à modifier le fil d'actualité de 700 000 personnes sans leur dire. Et en fait, ils jouaient avec le fil d'actualité pour voir quel type d'actualité faisait que les gens restaient plus dessus, prêtaient plus d'attention. Donc, par exemple, si on leur mettait des actualités de journaux, mais plutôt positives, tout va bien dans le monde, etc. Ou au contraire, des choses terribles, ou les photos des amis, ou les textes des amis. Enfin, ils faisaient des expériences sur vous, sans que vous le sachiez, pour voir en fait qu'est-ce qui vous accaparait le plus. Et ça, le seul objectif de Facebook là-dedans, c'est pas que vous soyez super content de leur service, parce que vous n'êtes pas les clients. Ce qui est important pour Facebook, c'est que vous passiez encore plus de temps dessus. Donc là, c'est une expérience de manipulation de masse, et c'est très problématique, puisque maintenant, tous les acteurs s'y mettent. Et on voit des acteurs, donc, je suppose que tout le monde connaît Tinder. Là, je vais parler de Tinder, je vais parler de OkCupid, qui est une application très... Enfin, c'est un site internet à la base, mais une application qui est très populaire aux États-Unis. C'est un peu lui qui est premier, donc c'est cette application qui est la première à avoir fait un scandale à ce niveau-là, puisque le patron s'était amusé à manipuler le score de match. Donc les gens avaient des scores quand ils voyaient les profils des uns et des autres, 90% de compatibilité, 10% de compatibilité, donc qui indiquait la propension qu'ont les gens de bien fonctionner ensemble, présenté comme un service. Et en fait, il s'est mis à manipuler les scores pour voir si les gens suivaient ce qu'ils voyaient, leur instinct, la photo de la personne, le profil, etc., ou s'ils suivaient le score qu'on leur donnait. Donc il s'est mis à des gens qui n'avaient que 10% de compatibilité à leur mettre 90%, et des gens qui avaient 90% à leur mettre 10%. Donc il a manipulé massivement les scores des gens juste pour voir les réactions sociales des gens. Donc on se rend compte quand même qu'il y a un problème puisqu'on se met dans des écosystèmes où on ne comprend plus les règles, on ne comprend plus les données qui sont utilisées, on ne sait plus à quel moment des algorithmes entrent en jeu et à quel moment ces algorithmes peuvent vous manipuler. Alors pour votre bien, soi-disant, pour avoir un meilleur service, mais pas toujours pour votre bien, comme on vient de le voir, puisque là, en l'occurrence, plein de gens ont écrit ensuite à OkCupid pour dire mais enfin, vous avez violé mon intimité, vous m'avez manipulé, etc. Donc on voit que c'est quand même pas si évident. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pourrais prendre encore 1000 exemples. Hein, mais les autoplays dans Netflix sont créés pour qu'à la fin de votre épisode de la série, qui est trop bien avec le cliffhanger à la fin, vous recommenciez tout de suite un autre épisode et que vous fassiez une orgie de vidéo, un binge watching, et que vous finissiez à 1h du matin complètement passif dans votre lit. Voilà, je pourrais prendre 1000 exemples de petites manipulations au quotidien qui s'accumulent, mais qui font qu'aujourd'hui, on passe en moyenne, alors j'ai les chiffres, je pourrais vous les redonner plus tard, mais on passe plus de 4 ou 5 heures aujourd'hui en moyenne, on passe en moyenne un jour par semaine entier sur les réseaux, sur les applications. Voilà, c'est la moyenne aujourd'hui.
Je crois que ça dépend un peu des enquêtes, mais j'avais lu que les courbes d'écoute de la télévision et de voilà, s'inversent, sont croisées avec la courbe donc qui représente l'augmentation du temps passé sur les réseaux et sur les téléphones. Alors, bon, bien, c'est toujours compliqué ce genre d'enquête, parce que d'abord, il y a du déclaratif, et ensuite, lorsqu'on est sur son mobile, est-ce qu'on est sur le réseau, est-ce qu'on recherche des informations, etc. Enfin, il y a un peu de flou quand même, mais disons qu'on est autour de 3h50 à peu près, enfin, ça dépend des études, encore une fois, mais 3h50 par jour sur des outils numériques et aussi à peu près le même temps en moyenne en France sur la télévision. Et bon, alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes qui regardent en particulier la télévision, c'est plutôt les retraités qui ont la télévision pendant 8 heures par jour. Ou...
C'est le chiffre que j'avais, 3h50, et ça donne à peu près un peu plus d'un jour par semaine si on met bout à bout, x7.
Voilà,
hein,
c'est ça. Et si on le met à l'échelle d'une vie, c'est absolument énorme. Bon, bien sûr. Mais donc.
Ah, oui, parce qu'en fait, juste, il y a une petite incise, il y a deux questions. Il y a une question qui est est-ce que vous ne passez pas trop de temps sur ces applications parce que vous êtes addict? Par exemple, on a tous peut-être joué à Candy Crush ou ce genre de choses. Il y a un moment où on se dit j'y joue trop. Non, mais c'est vrai, on y joue trop. Donc, il y a le moment, la question, est-ce que je ne passe pas trop de temps sur ces applications? Parce qu'en fait, il y a des mécanismes addictifs qui font que je vais y passer énormément de temps. Et il y a deuxième question qui est-ce qu'on ne me vole pas du temps? C'est-à-dire, est-ce que vraiment cette vidéo, j'avais envie de la regarder au fond? À ce moment-là, on peut se dire, voilà, cette vidéo Facebook qui m'a pris 3 minutes, ça paraît rien, mais je l'ai regardée parce qu'elle s'est déclenchée, je me suis fait prendre dedans, je l'ai regardée, ça ne m'apporte strictement rien, j'en sors, je n'ai rien appris, mais je l'ai regardée parce que c'était facile, etc. Voilà. Ça, c'est presque du temps volé, et mis bout à bout, en fait, ça devient un temps énorme. Donc, il y a deux réflexions à avoir en parallèle, je pense.
Oui, je ne sais plus quel Américain qui a dit, oui, Twitter, c'est formidable parce que ça, lorsqu'on a un quart d'heure à perdre, c'est le meilleur moyen d'en perdre une heure, quoi. Enfin, lorsqu'on a 5 minutes.
Il y a aussi un ingénieur de Google qui s'appelle Tristan Harris, qui a fait une tribune qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques temps, sur Rue 89 d'ailleurs, mais je n'y étais plus. Je crois que c'était en 2014 ou en 2015. Donc lui était un ancien ingénieur de Google qui a quitté Google. Il n'était même pas ingénieur, il était philosophe produit. Et en fait, son but, sa tâche, c'était de designer les produits. On appelle ça du design de l'attention, pour faire en sorte que les produits soient addictifs. C'est ça, le truc. Et il a fait une tribune en disant on vole des millions d'heures de vie aux gens. C'est quelqu'un de Google qui a dit ça. Il a depuis lancé un mouvement pour essayer de faire un design éthique. Mais donc, il y a vraiment même cette réflexion, même chez les ingénieurs, chez les développeurs, etc., il y a cette réflexion. Puisqu'aujourd'hui, on demande dans les grandes boîtes à des anthropologues, à des philosophes, de penser les produits pour qu'ils vous fassent perdre votre temps. Ça, c'est une réalité. Donc ça forcément, on se pose la question. Et je dis juste aussi que Microsoft, aujourd'hui, aux États-Unis, est devenu le premier employeur, après le gouvernement aux États-Unis, d'anthropologues. Anthropologues, donc de gens qui sont là pour étudier le comportement humain. Ça fait quand même réfléchir sur les ambitions, les stratégies des acteurs.
Alors, je vous demande dès à présent de préparer dans votre tête ou sur un bout de papier vos questions ou vos remarques ou vos expériences, parce que finalement, c'est assez intéressant d'avoir aussi du vécu, enfin des expériences. Mais je vais poser moi encore une dernière question avant de vous laisser la parole à Philippe. Parce qu'il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, on se disait, oui, de toute façon, ce n'est pas très grave parce qu'il y a toujours, dans la chronologie un peu des médias, etc., des éléments nouveaux, disruptifs, comme on aime dire aujourd'hui, qui font que le géant d'un jour est battu par un nouveau qui arrive sur le marché, enfin, qui apporte quelque chose de différent. Et c'est vrai que IBM a été un peu comme ça mis de côté en partie par Microsoft, par exemple, ou des choses. On voyait comme ça une succession. Mais on a l'impression quand même depuis 10 ans, justement, avec l'installation de Facebook et d'une sorte de cartel avec effectivement ce qu'on appelle les GAFA. Dont tu peux peut-être dire un mot, enfin, et donc Amazon, Facebook, Google et compagnie, on a l'impression que ça, il y a une sorte de cartélisation et que ça ne bouge plus tellement. Quel est ton sentiment à cet égard ?
Il y a deux problèmes. Enfin, disons qu'il y a le problème des acteurs et il y a le problème des logiques qui portent ces acteurs, qui font leur réussite. Les acteurs, effectivement, ils peuvent changer. Même si maintenant ils sont quand même bien installés, donc les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, sachant que dedans il y a un programmeur d'informatique, un constructeur et 3 acteurs plateforme, donc c'est quand même assez disparate comme modèle économique et comme stratégie, donc on peut pas vraiment dire les GAFA, même s'il y a bien sûr des points de rencontre. Il y a le problème des acteurs. Alors oui, demain, Google peut se faire détrôner par un concurrent, Uber peut se faire uberiser, on peut toujours penser ça. N'empêche que les logiques, elles restent. Alors, pas toujours. Des fois, effectivement, on est dans des nouvelles logiques, hein, des révolutions, que ce mot-là à la bouche en ce moment. Mais là, les logiques, je ne vois pas trop... Je ne suis pas très optimiste par rapport à ça, puisque ces logiques marchent. Alors, elles ne marchent pas toujours très bien, mais n'empêche que ces acteurs n'ont jamais dégagé autant de bénéfices. Par exemple, je pense à Google ou à Facebook. Leurs bénéfices ne font que croître. Et ces bénéfices-là sont tirés de techniques qui exploitent les biais humains, nos comportements, nos petites addictions, etc. Donc, si les bénéfices continuent à croître, je ne vois pas de raison pour que les logiques changent, même si les acteurs, eux, peuvent effectivement changer.
Alors, moi, j'ai peut-être une remarque quand même sur les logiques pour introduire la longue durée de l'histoire. C'est-à-dire que je pense que les logiques, elles sont à l'œuvre depuis toujours. Et moi, j'ai enseigné un peu l'histoire des médias à Sciences Po et le principe du feuilleton au 19e, c'était quand Balzac et les autres, Alexandre Dumas, écrivaient des feuilletons, eh bien, ils terminaient le chapitre par un élément... là aussi addictif, où il essayait de retenir l'attention en se disant, bon, la semaine prochaine ou demain, voilà, le lecteur pourra avoir la suite parce qu'il termine son chapitre par un élément un peu troublant, un peu qui retient l'attention. Et donc l'idée de retenir l'attention, l'idée de elle est présente dans les médias, dans toutes sortes de médias depuis longtemps. Et puis sans rappeler la fameuse phrase d'un président de TF1 d'il y a une quinzaine d'années, qui disait, oui, mon métier, c'est de retenir, quelle est la phrase exacte, de retenir le temps de cerveau disponible, oui, c'est-à-dire d'occuper le temps, voilà, d'essayer d'avoir le maximum de temps de cerveau disponible de la ménagère de moins de 50 ans. Enfin bon, c'était TF1. Donc finalement, la logique est un peu la même, simplement cette logique avec des moyens numériques extrêmement sophistiqués, avec les algorithmes, etc., évidemment, ça donne le paysage que tu décris.
Alors oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, capter l'attention, ça a toujours existé. Un orateur qui parle devant une foule depuis l'aube de l'humanité, c'est quelqu'un qui capte l'attention des gens. Capter l'attention, ça a toujours existé, il n'y a pas de souci. Néanmoins, il y a un basculement effectivement qu'on pourrait résumer dans l'expression société de consommation, c'est-à-dire qu'on commence à exploiter l'attention, on fait du profit sur l'attention qu'on arrive à dégager. Par exemple, la publicité, depuis l'aube de la publicité, donc ça a maintenant presque un siècle, hein, même plus, c'est de capter votre attention dans une revue, dans la rue, etc. Donc on est complètement, enfin, l'exploitation de l'attention existe depuis très longtemps. Néanmoins, il y a quand même un seuil qui est dépassé. Moi, je pense beaucoup au seuil, c'est-à-dire qu'effectivement, la logique n'a pas beaucoup changé, mais le seuil technologique est différent. Maintenant, enfin, on a passé ce seuil-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'une part, on a des outils qui rendent possible l'ubiquité. C'est-à-dire que ces acteurs sont présents partout, tout le temps. Aujourd'hui, Facebook ou Netflix ou peu importe l'application, elle est partout avec vous, puisque vous avez votre portable sur vous, qu'à tout moment, il faut la consulter, enfin, peut-être pas en classe, mais tout le reste du temps. Donc, c'est à n'importe quel moment, on peut vous atteindre, vous faire une notification pour vous rappeler le service, pour vous rappeler qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir pour vous, pour vous attendre. Et vous, à n'importe quel moment, je sais pas, vous vous ennuyez, vous faites votre devoir, vous n'avez pas envie d'être là, etc. Vous pouvez accéder à ces services tout de suite, là, maintenant, juste en un push. Donc, l'ubiquité change énormément notre rapport à la consommation des biens culturels et autres. Première chose. Et deuxième chose, la personnalisation, qu'on en revient aux algorithmes, le fait que ces acteurs maintenant... avant, dans du marketing publicitaire, on prenait des segments de population, la ménagère de 50 ans, le CSP+. Puis après, on regardait dans la rue, alors ce quartier-là, plutôt riche, plutôt tel profil, et on mettait ce genre d'affiche. On segmentait la population de façon assez grossière pour tenter de mettre des publicités qui vont parler aux personnes qui passent ici ou qui ouvrent ce magazine ou ce genre de choses. Maintenant, on essaie de faire du micro-ciblage et on essaie de savoir exactement qui vous êtes, vous. Est-ce que vous aimez les films de zombies des années 70 ? Est-ce que vous aimez les films avec ou la musique de telle période avec tel genre de chanteur ? Est-ce que vous aimez, enfin, je pourrais faire décliner ça un million de fois, sur Netflix, je crois qu'il y a 36 000 catégories de personnes différentes, triées. C'est un micro-ciblage quand même qui est assez impressionnant. Et donc ça aussi, ça change, puisqu'on est tous faibles par rapport à ça. Quand on vous propose des choses que vous aimez, vous avez envie de les regarder. Sauf qu'aujourd'hui, on passe votre temps, tout votre temps, à vous proposer des choses que vous êtes censé aimer. Effectivement, on pourrait, avec tous ces services, prenez Spotify, Netflix, Tinder, Facebook et quelques-uns encore, on pourrait passer notre temps dans un écosystème entièrement personnalisé pour vous, à consommer des choses que vous aimez. Le problème, c'est que ce temps, c'est un temps de consommation, vous ne faites pas grand-chose d'autre. Donc ça pose quand même des questions philosophiques aussi sur est-ce qu'on veut vraiment passer notre temps à regarder des choses qu'on aime, préfabriquées pour vous, pour nous, sur des plateformes qui exploitent vos données et vous exploitent commercialement au profit d'autres gens. Voilà, c'est toutes les questions qui se posent autour de ça. Effectivement, je pense qu'on a passé un seuil qui rend, qui met en danger certaines libertés, et qui met en danger notre libre arbitre. Et juste une dernière précision là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir aussi si, je pense que ça va tous arriver, mais vous êtes tombé sur un groupe de musique complètement par hasard, où quelqu'un vous l'a conseillé, un ami, hein, il a dit « écoute ça, c'est génial ». Et bien ça se trouve que c'est génial, c'est un pur hasard si vous arrivez dessus et vous adorez ça, et ça vous ouvre de nouvelles portes. Première fois que vous écoutez de la soul, et en fait c'est super, du coup je vais chercher par moi-même sur Wikipédia, grand groupe de soul, et puis ensuite je vais faire mes petits choix, etc. Et ça s'appelle, la sérendipité, c'est un peu l'œuvre du hasard dans notre construction culturelle et intellectuelle, et c'est très positif. Et dans le monde personnalisé des applications, où tout est fait à partir de vos goûts existants, et ben, si vous avez toujours écouté que du rap, ou que du rock, ou que de la soul, et ben, on vous proposera que ça. C'est un peu ça la logique qui est derrière, et vous n'aurez jamais l'occasion de découvrir autre chose. Après, c'est une vision un peu caricaturale que je vous propose, hein. C'est toujours plus subtil que ça, mais c'est la logique qui est derrière, cette logique pose problème, puisque le libre arbitre ne s'exprime pas dans quelque chose qui est préfabriqué pour nous.
Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que sur la question du choix et de l'offre et de la demande, il y a quelque chose que j'ai souvent répété entre la presse écrite et la presse papier, disons, par exemple, Socialterre, ou la presse sur le web. La différence, c'est qu'en général, effectivement, l'internaute, on lui recommande ou il va spontanément, par mots-clés, par trucs, il va vers ce qu'il demande ou ce qu'il cherche. Et donc le hasard, la serendipity ne fonctionne pas. Alors que, effectivement, si vous prenez encore un magazine ou un journal, bah, tout d'un coup, sur un sujet, sur un thème qui n'est pas le thème que vous cherchez, sur un sujet que vous ne connaissez pas bien, tout d'un coup, vous êtes alerté, et il y a des surprises, il y a de nouvelles connaissances, etc., etc. Donc, c'est une façon de défendre, en passant, l'écrit par rapport au papier.
Je rebondis juste là-dessus, parce que c'est très important. Effectivement, il y a la hiérarchie de l'information, ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information dans un journal, où le patron du journal va quand même, à un moment, décider de faire passer telle ou telle information, parce qu'il estime que c'est d'intérêt public, qu'il faut le savoir, de le mettre en une ou pas en une. Ça, c'est des choix subjectifs, éditoriaux, qui font qu'on dit qu'il faut alerter les gens, nos lecteurs, là-dessus. Aujourd'hui, on parle maintenant de mettre des algorithmes à la tête des journaux. C'est le débat qui est en ce moment dans plein de rédactions aux États-Unis, parce qu'en fait, les algorithmes, ils arrivent à trouver les petites tendances et dire ça va beaucoup cliquer sur Internet, les gens vont cliquer à fond là-dessus, et du coup, on va développer ce sujet-là, parce qu'on est sûr que ça va être rentable. Donc, c'est-à-dire qu'on renverse complètement la logique avec l'algorithme du « ça va plaire aux gens, donc on le fait ». Alors que normalement, la hiérarchie d'information, c'est voilà, « il y a toujours un petit peu de « ça va plaire aux gens, on le fait », puisqu'il faut quand même faire que le journal soit rentable, évidemment. Mais derrière, il y a toujours eu l'inverse, c'est « peu importe que ça plaise ou non, c'est important ». Et ça, ça disparaît dans la logique de la personnalisation. Donc c'est très important pour la presse. C'est un grand jeu qui va jouer dans les années à venir, je pense.
Oui, tu as parfaitement raison. Il y a un micro qui est prêt, là, qui est prêt à bouger. Donc, j'espère que vous avez plein de questions. Sinon, j'en ai encore une ou deux. Levez la main, n'hésitez pas. On est là pour bavarder. Et pour la première question, la plus dure. Non. Parce que... Ah. Mais... vous avez plus de 17 ans, je crois, non ? C'est pas ça ?
Merci. Je voulais juste savoir, pour le côté peut-être plus positif, s'il y avait des mouvements aussi d'utilisateurs qui commencent à prendre conscience davantage de ces problèmes et qui agissent pour influencer, par exemple, Facebook dans sa manière de gérer l'information et la diffuser. C'est-à-dire, est-ce que cette liberté d'accès à l'information quand même qui a été à l'origine de tous ces réseaux, peut jouer en faveur des utilisateurs et de leur libre arbitre ou pas du tout ? Est-ce qu'on constate aujourd'hui des mouvements, des prises de parole, des regroupements d'utilisateurs ? Est-ce que tout le monde est si passif que ça ou est-ce qu'il y a quand même des réactions ?
Alors, il y a des réactions de temps en temps. Par exemple, quand je parlais des scandales de manipulation de masse sur OkCupid ou sur Facebook, il y a eu des réactions très, très virulentes d'utilisateurs sur les blogs, etc., qui ont mené quand même Facebook à faire marche arrière, à s'excuser. Donc voilà, mais c'est très, très, c'est très, très isolé. Il n'y a pas de mouvement de consommateurs, il n'y a pas de class action, etc. Aujourd'hui, il n'y a rien. Pas que je sache, en tout cas. Il y a quelques mouvements alors, internes aux entreprises. Donc, tout à l'heure, je parlais de Tristan Harris qui a fait sa tribune sur « On vole la vie des gens à Google ». Lui a monté un mouvement qui s'appelle Time Well Spent, qui tente de sensibiliser les développeurs et designers à la question du temps, de l'attention entre guillemets volée aux gens, et de dire on peut faire du design éthique, on peut dire ce design-là est trop addictif, donc on ne le fait pas, et même à contrario faire du design, du contre-design éthique, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes qui nous font décrocher, par exemple. Donc là, je pourrais vous en lister quelques-unes après, mais il y a plein d'applications qui se développent aujourd'hui pour vous dire, bah voilà, là, vous avez passé 3 heures, on fait une alerte. Là, je peux supprimer l'accès à tous mes réseaux pendant 2 heures, parce qu'il faut que je bosse, il faut que je me concentre. Donc, j'ai une petite appli qui vous coupe la connexion à tous les réseaux. Voilà, donc il y a quand même des contre-mouvements qui se font, mais ça reste vraiment très isolé pour l'instant. C'est pas du tout... Surtout, ça ne trouve aucun écho du côté des pouvoirs publics aujourd'hui.
Il y a des mouvements anti-pub quand même, non ?
Alors oui, sur la publicité, il y a des mouvements anti-pub. Il y a les bloqueurs publicité qui font rage depuis très longtemps maintenant. Mais là encore, on est dans une logique très ciblée, c'est-à-dire que la pub, on fait ça surtout pour ne pas être envahi par la pub. Mais je ne suis pas sûr qu'on le fasse dans la perspective de « on capte mon attention, on l'exploite commercialement, etc. » Ça reste beaucoup plus individualiste et moins politisé, on va dire, qu'un vrai mouvement de citoyens qui dit « maintenant, il faut réguler, maintenant, il faut mettre des normes éthiques sur les plateformes et sur ce qu'ils font avec nous. » Ce genre de choses.
Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces logiciels qui, vous, par exemple, arrêtent les applis, arrêtent votre téléphone pendant quelques heures. Mademoiselle.
Est-ce qu'il y a des côtés positifs ?
Non, mais si.
Enfin, l'outil est un formidable outil, enfin, c'est un formidable outil de connaissance. C'est-à-dire que bien utiliser un téléphone c'est formidable. Moi, j'ai vécu bien sûr à une autre époque où il fallait prendre le dictionnaire familial pour trouver la définition d'un mot. Bon, c'est extrêmement positif comme outil, non ? De ce point de vue-là.
Alors, il y a un problème. Bon, dans les outils, il y a toujours un peu un problème quand même. Quand on veut influencer les gens, c'est toujours très problématique, même si c'est pour leur bien. Donc je suis pas trop. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de positif dans ce genre de technique, précisément. Maintenant, dans les applications, il y a toujours du positif. Oui, effectivement, par exemple, YouTube, la recommandation de vidéos, ça pourrait être fait très différemment, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je prends cet exemple. On recommande des vidéos sur le côté, là, et on vous donne que les vidéos qui vont vous plaire, pour vous passer plus de temps sur la plateforme. Or, on pourrait penser à un système totalement différent, mais ça impliquerait un système qui, par exemple, que vous payez, et dont les clients, ce n'est pas les annonceurs. Où en fait on pourrait vous conseiller des vidéos qui pourraient vous intéresser mais différemment, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui va vous plaire forcément mais c'est lié au sujet que vous avez regardé, ça peut vous enrichir, on fait un pas de côté, voilà, on pourrait faire quelque chose d'intelligent qui nous aide tous à découvrir des choses, à découvrir de la musique, à découvrir des films, à découvrir des informations, On pourrait faire des algorithmes ou des plateformes qui aident ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait du tout. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'on fait des plateformes pour qu'on vous nourrisse en contenu qui vont vous plaire, pour qu'ensuite vous restiez sur la plateforme, qu'on vous cale des pubs, que vous achetiez sur ces pubs, et que et comme ça, Facebook, YouTube, etc. font de l'argent auprès des annonceurs. Donc peut-être que demain, il y aura des services payants qui vont se développer, vous paierez peut-être 5-6 euros par mois, et qui vous proposeront vraiment quelque chose de beaucoup plus original, de beaucoup plus enrichissant pour vous. Ce n'est pas du tout sûr. Donc oui, il pourrait y avoir du bon. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de bon. Quoi. Maintenant, oui, YouTube, en soi, c'est une formidable plateforme. On y passe tous énormément de temps, c'est prodigieux, on découvre plein de choses, mais ça pourrait être beaucoup mieux que ce que c'est aujourd'hui.
Alors pour prolonger ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut imaginer, en effet, ce qu'on voit arriver pour la musique, un peu pour les films, et maintenant, et aussi même pour l'information, puisque maintenant, il y a certains journaux quand même qui arrivent à faire abonner des gens, et notamment le New York Times, qui a quasiment plus d'un 1,3 million d'abonnés sur le net. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des réseaux sociaux, finalement, où pour une somme modique, on soit à peu près débarrassé
C'est l'idée que moi, je défends, entre guillemets. C'est-à-dire que le jour où vous paierez votre réseau social, c'est que certainement, c'est très bon signe. C'est qu'on sera vraiment de faire quelque chose qui est entre guillemets bien pour vous et pas un truc qui vous exploite. Mais par exemple, sur les applications musicales, il y a eu un vrai débat il n'y a pas longtemps sur les plateformes, quand les plateformes se sont mises aux algorithmes, donc Spotify, Deezer, etc. Il y a eu ce débat, même en interne, ils ont fait des tests, etc., sur quel type de recommandations on peut faire aux gens. Et aujourd'hui, les radios comme Spotify, qui ont fait des donc Discover Weekly, Discover Monthly, etc., donc des playlists personnalisées, ont fait le choix, qui est pour moi mauvais, de la personnalisation à outrance. C'est-à-dire qu'on scanne vos goûts, on scanne votre bibliothèque, on regarde ce que vous aimez, et ensuite, par des mécanismes complexes, on compare les types musicaux, le genre de mélodie que vous aimez bien, ce qu'aiment vos amis, etc., on vous propose quelque chose de personnalisé qui va vous plaire à coup sûr. Alors qu'on aurait pu faire un algorithme qui rebondit selon d'autres schémas, il y a des chercheurs qui ont réfléchi là-dessus, c'est tout à fait possible, pour vous faire découvrir de la musique. Et pas vous donner de la musique qui va vous remplir comme une noix, en mode « Ah, c'est super, c'est une bonne mélodie, ah, j'aime ça, etc. » Mais et que vous restez dans le petit précaré de ce que vous aimez déjà, mais quelque chose qui vous amène vraiment à découvrir des nouveaux genres, des nouveaux groupes, de nouvelles choses. Donc il y a eu ce débat. Pour l'instant, moi, il me semble, de mes connaissances, que les choix qui ont été faits sont sur la personnalisation à outrance. Un mauvais choix, je pense, mais on pourrait faire d'autres choix. Ouais. Donc c'est possible que dans l'avenir, ça émerge.
D'autres questions ? N'hésitez pas. Voilà, mademoiselle.
Vous avez dit qu'on était vraiment beaucoup dépendants des réseaux sociaux, mais du coup, comment on peut échapper à cette société ?
Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour s'auto-discipliner ou s'auto-réglementer ?
Désinstaller les applis, par exemple. Non, je dis ça, mais moi-même, je ne le fais pas. Hein. Je suis sur Facebook, hein, donc vous voyez, c'est terrible. Je pense qu'il y a une éthique à avoir par rapport au réseau. C'est juste que des moments où on se rend compte qu'on est trop connecté. Je veux dire, il y a des moments où on se rend compte qu'on n'est même plus avec sa famille au repas parce qu'on est toutes les deux secondes, le portable vibre dans sa poche et qu'on a envie de regarder qui c'est, on a envie de répondre après. Donc, du coup, voilà. Donc déjà, avoir une éthique, ne serait-ce que de respect par rapport aux gens, de respect par rapport à soi-même, de se trouver des tunnels où on met en mode avion, où on passe son temps avec les gens qui sont autour de nous et pas sur son portable. Déjà, c'est quelque chose qui, je trouve, très positif. Après, il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, la notification, quelque chose qui est devenu complètement banal maintenant. La notification, c'est aujourd'hui pensé comme un mécanisme d'addiction pour qu'en fait, on vous rappelle dans l'enclos de la plateforme. Si on vous met une notification parce que quelqu'un a liké votre photo, c'est parce qu'en fait, on sait que quand vous mettez une photo sur Facebook, vous avez envie qu'il y ait de la reconnaissance sociale, que des gens, vos amis, likent, ils trouvent ça cool, etc. Et donc, on vous met une notification parce que ça vous ramène dans la plateforme et vous allez passer du temps. Et moi, le premier truc que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est d'enlever les notifications. Et alors là, j'ai gagné du temps. Hein. Je peux vous dire, parce que moi, j'avais besoin en plus de travailler dans des tunnels, parce que quand il faut écrire un article ou il faut réfléchir sur un papier, etc., il faut un peu de concentration, j'en avais plus du tout. Et du coup, désactiver les notifications, déjà, ça m'a libéré un temps fou. Je n'étais pas toutes les deux secondes avec ma vibration à regarder mon portable. Et j'ai plus de nouveau, par exemple, c'est bête, j'étais un gros lecteur quand j'étais plus jeune, j'arrivais plus à lire, parce que j'étais toujours interrompu toutes les trois pages. Et je me suis remis à lire. Donc il y a des petites choses déjà en termes d'éthique personnelle à respecter. Et après, si vous avez vraiment du mal, vous pouvez toujours mettre des applications qui vous coupent les réseaux, mettre en mode avion, éteindre le portable. Par exemple, le fait de mettre le portable en charge à côté de son lit, c'est une très mauvaise chose parce que le matin, le premier truc que vous faites, c'est que vous regardez votre portable en vous réveillant. Donc si vous le chargez dans une pièce comme le salon et que vous l'éteignez, Et ben, le matin, en fait, vous rendez compte que vous n'avez pas tellement envie de le regarder avant le café ou avant le chocolat chaud ou je ne sais pas. C'est des petites choses toutes bêtes comme ça, mais qui minimisent un petit peu quand même l'emprise que ça a sur vous. Après, je ne vais pas vous dire que vous pouvez vous en passer, puisqu'on vit tous dans un monde connecté aujourd'hui. On a tous envie d'être, de ne pas rater quelque chose avec ses amis, etc. Donc, de laisser allumer nos applications. Bon, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre l'hyper-addiction, être toujours le nez sur son portable et perdre beaucoup de temps avec des choses qui sont souvent pas très, qui sont un peu futiles, et l'excès complètement inverse, qui est de se déconnecter complètement, d'arrêter le téléphone portable, d'arrêter les réseaux sociaux, etc. Voilà. Je pense que c'est une question d'équilibre et de regarder, de remarquer quand on perd son temps et quand on ne le perd pas. Quoi.
D'autres observations, madame ?
Vous parliez tout à l'heure de possibilités de régulation du secteur. Il existe en France des organismes comme la CNIL, comme le CSA, qui sont là pour réguler différents secteurs, en particulier soit l'audiovisuel, soit l'informatique. Est-ce que vous avez des idées précises sur la régulation qui vous semblerait la plus appropriée ?
C'est très compliqué de réguler, puisque moi je parle de servitude volontaire, c'est quand même qu'on est bien content d'avoir ces réseaux et de s'y mettre le nez dedans. Donc c'est très compliqué d'aller contre le désir des gens et de leur dire maintenant c'est trop, on va limiter un peu tout ça. Donc clairement, je pense que la régulation en mode interdire, ou ça donnerait rien. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a énormément à faire sur ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire les techniques de manipulation. Aujourd'hui, dans le marketing, par exemple, dans la publicité, il y a quand même des lois qui s'appliquent. On n'a pas le droit de faire des pubs mensongères, par exemple. On régule la publicité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Dans tout ce qui va être publicité comme algorithme, ciblage, ce qu'on appelle du nudging, des petits poussés pour vous faire acheter ceci ou cela, il n'y a aucune régulation. Et je ne parle même pas de régulation, interdiction, etc. Il n'y a même pas de réflexion éthique là-dessus. Il y en a un petit peu donc, chez Google, quelques ingénieurs qui publient là-dessus, quelques philosophes qui réfléchissent à ça, mais globalement, il n'y a rien qui se fait. Pour moi, c'est urgent qu'on ait le droit qu'on mette en place des comités publics pour justement avec des anthropologues, des philosophes produits, etc., pour voir comment ça se passe vraiment. Mais pour ça, il faudrait pouvoir voir comment marchent les algorithmes aussi. Ça, c'est très compliqué parce que c'est propriétaire et qu'on n'a pas le droit. C'est un vrai problème. Mais pour voir comment ça marche dans le détail et qu'on soit capable de dire cette technique, elle est beaucoup trop addictive. C'est clairement fait pour détourner les gens de ce qu'ils sont en train de faire, pour exploiter leur biais cognitif, parce qu'on est tous, faibles. Hein. Une notification, ça attire notre regard, c'est normal, on est construit comme ça. Donc il y a des choses qui sont trop designées pour profiter de nous. On devrait pouvoir être capable d'analyser ces choses-là et de dire ça oui, ça non, et d'interdire aux acteurs d'utiliser des techniques qui sont trop chronophages ou trop manipulatoires. Par exemple, ça c'est un... Je n'ai pas beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire précisément comme régulation, mais ça me paraît évident que c'est la première des priorités, ce serait ça.
Autre question ? Alors, n'hésitez pas.
En fait, j'aimerais savoir ce qu'il serait possible de faire pour sensibiliser justement à une pratique plus modérée de tous ces réseaux sociaux, sans passer pour un troll, pour un réactionnaire, pour un complotiste, enfin voilà, tous ces qualificatifs où vous allez avoir par exemple une personne qui consomme les réseaux sociaux à un maximum de doses, mais qui va dire moi je contrôle, et puis de toute manière j'ai rien à cacher, et je publie, je fais attention à ce que je publie, voilà, mais qui va passer tout son temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui va être pris effectivement dans ce filet de toute son attention disponible et qui va perdre son temps. Voilà, comment sensibiliser ? Quels moyens existent-ils ? Peut-on trouver sans être donneur de leçons ?
C'est compliqué, ça dépend quel public on veut sensibiliser. Donc là, il y aura un champ exploratoire infini. Hein. Mais je ne sais pas, par exemple, pour ne pas passer pour un troll ou quoi que ce soit. Moi, je pense que, par exemple, un des vrais problèmes dans les techniques aujourd'hui de manipulation, dans les applications addictives, etc., c'est le fait qu'on fait des continuums d'attention. C'est-à-dire, par exemple, sur Netflix, vous avez votre vidéo, votre série, ça se finit, cliffhanger, hop, on charge l'autre épisode, et vous n'avez même pas le temps de finir votre épisode, que l'autre s'est déjà lancé, et vous continuez. Vous en sortez crevé. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas si vous faites ça, mais quand je fais ça, mon dimanche après, je ne fais plus rien après. Hein. C'est terrible. Par exemple, casser ces continuums, arrêter de faire tout à la chaîne, de jamais décrocher, d'être dans cette hyper-connectivité, c'est une bonne chose. Et par exemple, ça, tout simplement, quand on a fini un épisode, quand on a fini un film, plutôt que se remettre le nez dans quelque chose d'autre ou dans la même chose et continuer comme ça sans s'arrêter, prendre le temps de la réflexion. Je sais pas, écrivez un blog, dites-vous, tiens, ce film, il m'a plu, j'ai envie d'en parler, ou il m'a pas plu, j'ai envie d'en parler. Ou appelez vos potes, ou regardez ça à plusieurs. Si c'est des profs, je sais pas, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais voilà, essayez de réfléchir à ce que vous faites. Quand on fait de la musique, par exemple, enfin, moi, je me suis mis à réécouter des albums, par exemple. Voilà. J'écoutais toujours des playlists. Alors, j'étais dans les playlists tout le temps. Ça pouvait durer des heures et des heures. Hein. En plus, maintenant qu'ils les personnalisent, on peut continuer ça pendant des jours. Ben, maintenant, j'écoute des albums. Et puis au moins, l'album, c'est quelque chose de complet. Enfin, c'est une œuvre. L'artiste, il va vous faire quelque chose de la chanson A à la chanson 10. Et à la fin, ça fait un album qui est dans une année, dans un tel genre, etc. Et on peut réfléchir à cet album, l'écouter en entier, aller voir la fiche Wikipédia, regarder un petit peu ce qu'a fait le mec. Voilà, ça, c'est des choses qui, du coup, font que vous reconcentrez sur une expérience, que ce n'est pas juste de la consommation perpétuelle de produits, de musique, de films, de relations sociales. Et donc, ça donne du sens aux choses que vous regardez, que vous consommez, que vous écoutez, etc. Il me semble que ça, par exemple, c'est un des premiers réflexes à avoir pour essayer de sortir un peu la tête des applis.
Ça, c'est un moyen, mais comment parvenir à la prise de conscience qui précède le moyen. Maintenant, moi, j'ai conscience d'écouter que des playlists. Je vais passer de YouTube, je vais aller sur Bandcamp, voilà, qui est plus respectueux de l'œuvre d'un artiste avec ses pochettes d'albums, etc. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui va me donner envie ? C'est comment faire comprendre, hein, voilà, encore une fois, sans être donneur de leçons, comment susciter, donner l'envie et faire prendre conscience. C'est ça. Parce qu'on a les moyens, il y en existe. Comme vous disiez, une éthique personnelle, des outils, mais comment, bah, pourquoi ?
Je ne sais pas si on peut apporter une réponse à ça. Ça questionne notre mode de vie aussi.
Il y a une réponse, peut-être, ou une observation, un rebond. On aimerait bien que les jeunes s'expriment un peu aussi.
Des questions.
Ouais, il faut nous faire part de vos...
Je suis désolé de ne pas être jeune.
Non, bah oui.
Mais je voudrais faire un appel aux jeunes, justement. C'est pour rebondir sur ce que dit monsieur. Je fais un parallèle avec un siècle d'écart, avec le développement de la voiture. Quand on a commencé à avoir des voitures, on ne s'est pas posé la question de la sécurité, de la pollution. La pollution directe par les gaz d'échappement, la pollution par la destruction des voitures, la pollution par l'exploitation des minerais pour les fabriquer. Je crois qu'on en est avec toutes nos technologies dont on vient de parler, à peu près au même stade. C'est-à-dire que pour l'instant, on est heureux de les utiliser. On est comme des gosses avec un nouveau jouet, qu'on ait 17 ans ou 60 ans comme moi. On est à peu près dans la même situation. Historiquement, on n'a pas le recul collectif. Et ce que vous dites est très clair. C'est-à-dire que ni les politiques... ni les techniciens aujourd'hui, n'ont commencé à construire au moins des outils au moins intellectuels pour aller contre cette vague qui est en train de tous nous submerger, qui va à l'encontre du temps passé les uns avec les autres, de l'empathie, de tout ce qui fait les réseaux du bien vivre ensemble, en fait. Et donc, avant qu'on ait... Il y en a beaucoup ici qui sont trop jeunes pour se rappeler des premières réactions qu'il y a eu quand on a dit on va rendre obligatoire non pas le port, mais l'installation de ceintures de sécurité sur les voitures neuves. C'est ce que vous êtes en train de demander concernant l'utilisation des différentes applis. Là. C'est que moi, je ne crois pas au monde des bisounours. Et que tant qu'on n'aura pas des règles précises concernant et qui sont imposées forcément par la collectivité publique, puisque là, on va lutter contre des intérêts privés qui sont d'une telle puissance que l'individu ne peut rien faire contre eux. Donc il n'y a que la collectivité publique qui est en position de pouvoir réagir.
J'avais un peu peur d'entrer dans ce débat, parce que c'est un très très vaste débat. Je ne sais pas si on aura le temps, et puis je ne sais pas si tout le monde est très au fait de ces questions-là, mais effectivement, pour répondre à la première question, en parallèle à la seconde, il y a aucune véritable solution individuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens d'être tous hyper attentifs à ce qu'ils font, à surtout pas se laisser aller, à pas trop en faire, etc. C'est perdu d'avance, déjà, clairement. Surtout, c'est, d'un point de vue philosophique, ça renvoie les gens à leur propre responsabilité, alors qu'en face, ils ont des acteurs qui les manipulent et qu'eux, on n'a rien à faire de leur responsabilité. Et qui, en plus, ont le pouvoir, puisqu'ils ont l'argent, ils ont les lobbyings, ils jouent dans les zones grises des législations étatiques, qui sont complètement larguées sur la question. Donc effectivement, je pense que d'un point de vue individuel, on peut toujours se sensibiliser, son entourage, etc. On n'arrivera à rien. Maintenant, sur la question publique, elle est aussi, pour moi, elle ne peut pas être non plus complètement non lié à la première question du rapport individuel aux technologies, c'est-à-dire que c'est en commençant par se rendre compte de ce qu'on fait, de ses comportements, de ce qui ne va pas, qu'aussi on a envie de se sensibiliser à la question plus politique du qui sont ces acteurs, pourquoi ils font ça, comment est-ce qu'on peut réguler, comment... Voilà. Bon. Maintenant, aujourd'hui, moi, je serais très content qu'il y ait des organes de régulation, on l'a évoqué plus tôt, qui commencent à mettre les pattes dedans, voire qui interdisent certaines pratiques ou certaines applis même. Hein. On pourrait entrer dans ce débat-là, on pourrait même entrer dans l'interdiction du smartphone lui-même, puisque bon, c'est un autre débat encore. Ça, et ouais, je suis désolé, mais ça, c'est sur un autre plan. Mais le smartphone est une catastrophe écologique. Le smartphone, ça détruit des millions de vies en Chine, de gens qui travaillent avec limite avec les chaînes pendant des chiffres de 16 heures sans pause pour construire nos petits micro-circuits. Ce sont des minerais qui sont exploités à ciel ouvert en Afrique par des enfants à peine plus âgés que vous, moins âgés que vous. Voilà, donc c'est un carnage écologique sur une chaîne de valeur mondialisée avec des composants qui font des allers-retours sur tout le globe en bateau, cargo, pour ensuite être montés dans les pays où c'est moins cher. Il faudrait que vous vous intéressiez aussi au coût écologique des technologies qu'on utilise. Et moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait presque qu'on interdise le smartphone et on n'en parlerait même plus, on n'aurait même plus ces débats-là. Mais bon, je ne vais pas tenir cette position-là parce qu'elle est quand même compliquée à tenir. Mais effectivement, moi, j'invite aussi chacun, puisque vous êtes tous jeunes, à questionner plus largement que vous les applications, les technologies, le smartphone, puisque bon, c'est très bien si vous vous limitez un petit peu, si vous avez conscience que des fois, bon, vous perdez un peu votre temps, ou si vous n'avez pas envie d'utiliser une application qui exploite vos données sans vous demander votre avis. N'empêche que ça ne changera pas les choses pour le reste de la population. Et donc, c'est bien si vous arrivez à vous intéresser aux choses de manière plus globale et pas simplement à votre niveau. Et peut-être que là, alors surtout la nouvelle génération dont je fais partie aussi, hein, peut-être arrivera à porter ces débats-là à un niveau politique, étatique, de régulation, et qu'on pourra enfin avoir une vraie inflexion dans nos rapports aux technologies. Mais bon, là c'est faire la prospection, donc je ne peux pas vraiment répondre non plus à cette question, c'est très compliqué.
Alors, il y a une autre remarque.
Oui, je voulais poser une question qui fera peut-être réagir nos élèves, puisqu'effectivement, on aimerait bien les entendre. Par exemple, il y a souvent un débat dans les établissements scolaires sur les brouilleurs, c'est-à-dire effectivement pour recapter l'attention de nos élèves ou les amener à avoir d'autres types de pratiques. On porte parfois le débat sur est-ce que ce ne serait pas possible de brouiller les téléphones, en fait. Donc, je voulais savoir si les élèves étaient d'accord avec ça, au vu de tout ce que vous venez de dire.
Oui, alors pourquoi,
donc tout le monde est d'accord. Je vais faire signer une pétition dans l'établissement, comme ça pourra se faire peut-être.
Non. Non. Alors. Non, parce que.
Vous êtes d'accord.
Ben non, parce que alors. On peut recevoir des appels importants des fois.
Des appels importants.
Non, mais à l'intercours. Quoi.
Et comment on faisait avant, sans téléphone portable? Il n'y avait pas d'appel important, rien ne se passait d'important.
Mais pour revenir sur ce que disait monsieur tout en haut, la comparaison avec l'automobile est à la fois juste et en même temps pas totalement pertinente, si je peux me permettre, parce que dans le cas d'automobile, on a vu assez vite, enfin disons depuis 30 ans, les dégâts et ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes en économie, en ES, mais ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire les coûts cachés, les coûts induits, ce que Philippe aussi a dit à propos de la construction des smartphones et des coûts cachés là aussi, puisque effectivement c'est des coûts écologiques en Chine, des coûts d'exploitation de minerais, etc., etc., qui ne sont pas visibles dans l'acte d'achat que vous faites quand vous achetez un portable. Mais le problème, c'est que ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux, des applications, etc., etc., les externalités négatives en termes d'addiction, en termes de contrôle, de surveillance, enfin, tout ce que tu as expliqué finalement depuis 50 minutes, c'est pas très évident ni à quantifier, ni à repérer. Susciter effectivement un mouvement politique ou un mouvement individuel, peu importe, autour de ces dégâts, de ces conséquences négatives, ces externalités, comme on dit en économie, eh bien, c'est pas évident. Quoi. C'est pas évident, c'est parce qu'elles ne sont pas très visibles à l'œil nu.
Non seulement c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est même fait en sorte que ce soit pas visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'il y a aussi. On parlait tout à l'heure d'algorithmes. Donc, ces algorithmes sont propriétaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Facebook, à Google, à toutes les plateformes que vous utilisez, et que personne aujourd'hui ne sait comment fonctionnent ces algorithmes, à part les acteurs qu'ils utilisent. Donc aujourd'hui, personne en France ou ailleurs sait exactement que fait l'algorithme de Google. Impossible. Et donc, non seulement leur action est invisible, vous ne savez pas à quel moment... Vous ne savez pas ce que vous n'avez pas vu, par exemple. Sur Facebook, quand vous voyez votre fil, vous voyez ce que vous avez vu. Vous ne savez pas ce qu'on vous a caché. Parce qu'en fait, il faut aller sur le mur de la personne dont vous avez envie d'avoir des news pour voir en fait ce qu'il a publié et vous rendre compte de ce que vous avez raté. Mais vous ne voyez pas du tout ce qu'il ne vous a pas montré. Donc l'action des algorithmes est invisible. Vous n'avez sûrement pas le réflexe de vous dire « Ah bah là, il y a un algorithme qui a fait quelque chose pour moi, etc. » Non, pas du tout. Mais en plus, le fonctionnement même de ces systèmes-là est caché aux yeux des pouvoirs publics, de la communauté et des individus, parce qu'il y a des droits de propriété qui rendent leur accès impossible, font que ce sont des véritables boîtes noires, c'est-à-dire on sait ce qui rentre dedans, on sait quel type de données rentre dedans, mais on ne sait pas ce qu'il en sort. Enfin, on sait ce qu'il en sort à peu près, hein, les genres d'actions, mais même nous, on ne les voit pas vraiment au quotidien. Et au milieu, ce qui se passe, on ne sait pas. Donc en fait, aujourd'hui, il y a vraiment il y a des très bons ouvrages, mais je pourrais donner des références, hein, notamment de Frank Pasquale, il s'appelle la Black Box Society, c'était de la boîte noire, et qui explique comment aujourd'hui on a fait en sorte que partout, dans tous les systèmes informatiques, il y a des boîtes noires où on ne sait pas ce qui se passe. Donc effectivement, pour commencer un débat public, il faudrait qu'on commence par savoir exactement comment les choses se passent, où elles se passent. Et ouais, ça c'est une priorité. Ouais. Et effectivement, par rapport à la voiture, il y a un parallèle que moi je pense qu'on peut faire. Hein. Mais effectivement, il y a aussi une partie, et même je dirais au-delà de l'action invisible, etc., c'est que les externalités de la voiture... Alors, il y a des externalités plus moins évidentes, comme l'urbanisme, comme le fait qu'on a viré les gens de la route pour les mettre sur des trottoirs, comme le fait que la voiture s'est imposée aux gens. On pourrait revenir sur l'histoire de comment on a imposé la voiture dans les villes, mais peu importe. Mais surtout, c'est sanitaire, c'est la pollution, c'est le bruit, c'est combien ça coûte de construire une bagnole. Bon, c'est assez simple, finalement, de catégoriser les externalités. Sur l'influence que peuvent avoir les plateformes ou le smartphone sur nos vies, bah, ça fait appel à la sociologie, à des sciences neuronales, neurocognitives, à des sciences comportementales, à de la philosophie. Donc c'est hyper compliqué en fait aujourd'hui de vraiment prendre conscience. Et même moi, je suis entre guillemets spécialiste de ça. J'en apprends encore plein tous les jours, plein de choses tous les jours dans différentes branches des sciences sociales. C'est hyper compliqué de vraiment saisir les enjeux. Et ça, c'est vraiment nouveau, je pense, dans l'histoire des technologies. C'est vraiment quelque chose de complètement nouveau.
On va prendre une dernière question s'il y en a une. Sinon. On va aller se réchauffer dehors, puisqu'il fait plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mademoiselle.
Là, il y a des anciens, etc., qui nous sensibilisent. Mais ça veut dire que les générations futures, bah, si les réseaux sociaux ont qu'une limite sur notre conscience, enfin inconscience, etc., bah, c'est dire que les générations futures vont être guidées, enfin contrôlées par les réseaux, ou alors au contraire, bah, ils vont mourir. Enfin, genre, je sais pas.
Non, mais il y a effectivement pour rebondir juste avant que tu répondes, l'idée que si des générations entières sont tellement addictes ou tellement manipulées que finalement elles n'auront plus la conscience ou la force, l'énergie pour éventuellement alerter ou réagir.
Oui, alors je pense qu'il ne faut pas dramatiser, ce n'est pas les applis qui vont nous tuer et mettre fin à l'humanité. Mais non, le risque, effectivement, c'est que ça devienne pire que ce que c'est déjà aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on est déjà hyper accro. On a déjà perdu, je pense, pas mal de marge de manœuvre par rapport à l'accès au monde, aux autres, etc. Mais c'est encore les débuts. Et effectivement, qu'est-ce que ça sera plus tard, c'est vachement dur de dire. Parce que les choses peuvent changer entre-temps, dans le bon sens ou dans le mauvais sens. De nouvelles technologies peuvent apparaître. Enfin, c'est très compliqué de faire du prospectif, hein, d'imaginer le futur. Mais effectivement, si ça continue comme ça, je pense qu'on va devenir des sociétés où on va effectivement être juste des consommateurs. Oui, je pense, ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est encore assez brouillon. En fait, ces techniques, ces technologies de manipulation, etc., c'est des algorithmes. Les algorithmes, ça existe depuis 2000 ans, enfin moins 1500 ans. Donc, c'est pas du tout neuf d'un point de vue théorique. C'est juste qu'avec Internet, c'est devenu super puissant. Mais ça fait que 5-6 ans maximum que vraiment on développe ces technologies pour essayer d'influencer les choix des gens, etc. 5-6 ans, c'est rien. Donc effectivement, on peut s'attendre à ce que, peut-être pas toutes, mais en tout cas certaines d'entre elles, certaines de ces applications deviennent beaucoup plus puissantes à l'avenir et qu'effectivement, on arrive vraiment à savoir à tout moment Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir de regarder, d'écouter, de machin, et que ce soit vraiment... Parce qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'erreurs. Hein. Il y a plein de pubs qu'on vous met et qui sont complètement à côté de la plaque. Il y a plein de musiques qu'on vous fait écouter sur Spotify qui, en fait, ne vous plaisent pas tellement. Et puis, on se lasse vite de la playlist qui tourne un peu en boucle au bout d'un moment. Enfin, voilà. Mais on peut effectivement imaginer que dans quelques années ou quelques décennies, ça soit vraiment perfectionné à un point où ce serait hyper facile, en fait. Vous voulez regarder un film, vous voulez écouter de la musique, vous voulez acheter des produits. Ce serait peut-être beaucoup plus facile de juste demander à son smartphone... qu'est-ce que je peux regarder, qu'est-ce que je peux écouter, et le smartphone vous produit un truc. Et c'est ça, en fait. Et donc là, on ne serait plus que des consommateurs. Et je vais juste citer le patron de Google, il y a quelques années, qui a dit que lui, il rêvait d'un monde où on ne consommerait rien d'autre, rien qui ne soit pas taillé au préalable pour vous. Voilà, ça, c'était le rêve du patron de Google. Donc ça interroge quand même, ça veut dire que chaque individu deviendrait... Bon, alors vous ne serez pas mort, vous ne serez pas complètement décérébré, voilà, ce ne sera pas non plus le cataclysme, mais ça veut dire qu'on serait juste des consommateurs... qu'au final, on aurait beaucoup moins de liberté individuelle, de vouloir découvrir des choses, de se renseigner par soi-même, de se faire sa propre opinion, etc. Et qu'on s'en remettrait à des guides, comme Alexa, ou je ne sais plus comment, Cortana, et qui nous diraient juste qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux écouter, qu'est-ce que je peux voir. Et c'est vraiment la logique qui est en place, et c'est assez inquiétant, parce qu'on se dit, moi, ce que j'ai envie, je ne sais pas vous, mais je pense que vous n'avez pas envie d'une vie où on vous dit finalement quoi faire, où on vous suggère quoi faire. Et puis vous avez juste à faire ce qu'on vous dit de faire, finalement. Et puis c'est cool parce que c'est regarder des séries, écouter de la musique. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur, quoi. Et ça, ça peut arriver. Mais bon, je pense qu'on va s'en sortir avant.
Merci beaucoup sur cette conclusion un petit peu pessimiste. Mais bon, on va... Merci à vous.
Merci.
Merci à notre invité et merci à vous qui avez écouté sans ouvrir vos portables, donc bravo. Il y a une dernière question alors.
Vas-y.
Par rapport aux journaux qui passent sur Internet comme Le Monde, qui ont leur propre application, est-ce que vous pensez qu'un jour la presse écrite pourra disparaître complètement ?
Écrite comme support ou... Ouais.
La presse papier qui passe sur Internet.
Je sais pas. Oui, je pense qu'effectivement, par exemple, les quotidiens, je pense que c'est fini. Je pense que d'ici 10 ans, Le Monde, etc., sera plus en quotidien. Parce qu'aujourd'hui, si on veut quelque chose de l'actualité du jour, on va sur Internet, on va pas attendre le lendemain 15h pour avoir l'actualité. Donc par contre, je pense qu'il y aura une persistance du papier sur les formats hebdomadaires, mensuels, etc., puisque les gens aussi en ont marre. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous êtes sur votre appli ou sur votre ordinateur, mais quand je regarde la presse sur Internet, j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer parce qu'il y a une notification, parce qu'il y a un autre truc à faire, il y a un autre onglet, il y a machin. Donc les gens, je pense, reviennent peu à peu aussi au fait qu'il y a un objet. Alors moi, je fais ma publicité, hein, si vous voulez acheter. Mais qu'il y a un objet, qu'on prenne le temps, on se pose dans le métro, on se pose chez soi et on lit, on prend le temps de lire, on est déconnecté du reste. Donc je pense que le papier va continuer, mais que sur les formats plutôt périodiques.
Merci, au revoir.
Merci.